Eh bien bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal qui n'est pas un libre journal, qui est un florilège des arts tous les vendredis, ou plutôt un vendredi sur deux, de 10h à 11h. Voilà, donc nous nous retrouvons en direct dans le studio au 61 boulevard Murat. Je vous rappelle chers auditeurs que si vous souhaitez poser vos questions, le mieux est encore, eh bien ce sera Arnaud qui est à la technique, qui est, que je remercie d'ailleurs à l'occasion, qui viendra m'apporter les messages. Essayez, vous pouvez toujours tenter votre chance au standard, on ne sait jamais. Je pense que le sujet du jour devrait vous donner envie éventuellement de poser des questions, puisque nous sommes avec un spécialiste, c'est le moment ou jamais, hein. C'est une fois dans l'année que nous le recevons sur ce sujet de l'actualité du vin, qui est le thème principal de cette émission. Il s'agit eh bien de Bruno Queniou, le chevalier des arts et des lettres, le patron de Philo Vino, Bruno Queniou, l'auteur de La vie mystérieuse du vin. Bonjour mon cher Bruno.
Bonjour Nicolas.
Alors, on est très content de t'avoir pour un rendez-vous annuel, qui est notre rendez-vous de l'actualité du vin chaque année, et ce qui nous permet de développer à la fois un petit peu ce qu'il en est de la consommation, de la production. Depuis quelque temps, on parle l'été du problème, si tant est que c'en soit vraiment un, qui est celui de la chaleur, de la canicule. Ah, ça fait souffrir les vignerons, probablement, mais peut-être pas comme on nous le dit. Et peut-être y aurait-il des solutions, peut-être pourrions-nous nous y adapter. Ça, on va voir aussi avec Bruno. Et puis peut-être Bruno va-t-il nous faire part aussi de ses dernières découvertes, ou de ce qui, cette année, doit absolument se boire. On avait même fait une année au sacrilège sur le rosé, qui n'est pas un sacrilège parce qu'on y boit, entre autres dans la cave de Philo Vino, d'excellents rosés, car ça existe, les bons rosés, n'est-ce pas?
Tout à fait.
N'est-ce pas, mon cher Bruno? Alors, qu'est-ce qu'on ne dit pas sur le vin actuellement? C'est une série de complaintes, baisse de la consommation, baisse de la production, alors pour des raisons qui ne sont pas nécessairement, qui sont en partie corrélées, hein, consommation et production sont corrélées, mais aussi il y a des problèmes spécifiques liés à la production aujourd'hui. Et puis la consommation, alors je pense qu'il y a toujours, il y a une espèce, alors si j'étais pas sur Radio Courtoisie, je parlerais de bashing, de vin bashing, au sens où vraiment on cherche à, par tous les moyens, à nuire au vin. Hein. Je le vois par exemple pendant, j'étais très surpris pendant la canicule, nos experts de plateau, hein, on a les experts de plateau sur le, on a eu ça sur la crise sanitaire, on a ça sur la canicule, c'est pareil, hein, la canicule c'est un nouveau Covid, on a fait une émission dernièrement sur ce sujet avec Pierre Jovanovic, dans un libre journal de géopolitique profonde. Donc la canicule a donné lieu à des débordements anti-vin. Par exemple, les gens n'étaient plus alcoolisés, ils étaient avinés. Ça, j'ai trouvé très intéressant la remarque, sachant que c'est des jeunes, et qu'en général, les jeunes boivent très peu de vin, ils boivent plutôt des alcools et des alcools forts, ou de la bière éventuellement. Donc parler d'aviné quand c'est de la bière ou de la vodka, franchement, ils repasseront. Mais ça montre, j'ai l'impression chez ces experts, une espèce de volonté maligne de nuire. Et comme s'il y avait dans notre société, peut-être par haine d'elle-même, encore une fois, par haine de la civilisation, qui nous porte tous, pourtant, qui est une civilisation où la vigne, où le vin joue un rôle absolument extraordinaire, essentiel, et bien comme s'il y avait volonté de nuire au travers le vin à notre civilisation, à notre culture, Bruno.
En fait, dans ce que tu viens de dire, il y a énormément de choses. C'est vrai, l'attaque du vin, elle n'est pas d'hier. Le vin, c'est le dernier pilier de la civilisation. Qui date d'avant l'Égypte, hein, les Sumériens, déjà le vin a été célébré comme boisson des dieux. Évidemment qu'il a été aussi utilisé pour dépolluer l'eau, hein, pour assainir l'eau, mais c'est pas sa mission principale. Sa mission principale, c'est d'élever l'homme en dieu. Et ça, évidemment, que on imagine bien que nos pouvoirs actuels n'ont pas envie que l'homme s'élève en dieu. Hein, ils se prennent pour des dieux, ceux qui nous gouvernent, mais ils ne veulent surtout pas que la population, par le vin, s'élève vers le pouvoir intérieur. Eux, ils sont dans le pouvoir extérieur. Le vin, c'est autre chose, c'est une transcendance. Là, juste une petite anecdote. Pendant la canicule, un vendredi et un samedi, les autorités parisiennes, préfets, préfectorales, ont décidé de faire fermer les cavistes à 18h.
Ouais.
Et alors, c'était drôle parce que les brasseries, les bars, tout le monde avait le droit de s'alcooliser, pas de s'enviner le soir, tard. C'est pas les cavistes qui ont rempli les hôpitaux, ça c'est sûr. Encore moins aujourd'hui qu'hier, parce que c'est vrai qu'hier, on a inventé le pinard au 19e siècle. On a inventé le pinard qui a duré jusque dans les années 80 et le pinard s'effondre, le marché du pinard s'effondre. Et c'est pas les moins de 40 ou 50 ans qui boivent ce pinard-là. Ils boivent soit de la bière, soit des alcools forts. Et là, ce qui était étonnant, et il n'y a pas eu de négociation entre le syndicat des cavistes et le préfet, le syndicat des cavistes a été repoussé, renvoyé dans ses 18 mètres en disant non, non, il n'y aura pas de changement, c'est comme ça. Ce qui est intéressant de ça, c'est que c'est une première, mais ce n'est pas une dernière. On sent bien que c'est quelque chose qui est permanent. Et les attaques contre le vin, d'ailleurs on le voit dans les campagnes anti-alcool, c'est toujours un verre de vin qui est présenté, on sait bien. Et de toute façon, il y a un lobby des grands alcooliers internationaux, puisque c'est une puissance énorme. Les lobbies du vin sont très faibles à côté des lobbies de l'alcool, puisque il y a deux grands groupes mondiaux du vin, mais ça représente rien par rapport à la puissance des alcooliers en termes de chiffre d'affaires. Et puis surtout, ça n'a pas le même rôle. Le vin, c'est la communion. C'est pas la même ivresse. On va pas chercher la même ivresse avec le vin. C'est une ivresse de transcendance. C'est une ivresse de bien-être avec l'autre, de sentir, de ça anime les débats, ça anime la philosophie, ça fait révéler de la philosophie. Et c'est tout ce qui est reproché et ça anime la communion surtout avec l'autre. C'est la table, c'est la civilisation de la table. On se met à table, on boit le vin ensemble et on réfléchit ensemble. On échange ensemble, c'est la table de la famille, etc. On voit bien que la famille, comment elle est attaquée. Toutes les structures sociales qui faisaient que l'être humain avait des capacités de grandir, etc., ont été mises à mal. Et le vin, évidemment, c'est un pilier, c'est un symbole. Et là, il est attaqué par tous les moyens et ça s'accélère. Et là, ça a été vraiment un coup de tonnerre dans le milieu du métier des cavistes parce que le caviste, alors évidemment qu'il y a, comme dans d'autres populations, des brebis galeuses, des gens qui vendent des choses pas très saines, pas très bonnes, mais c'est minuscule. 90% des cavistes aujourd'hui, notamment les indépendants, font un travail de recherche de vin, de présenter des vignerons, présenter cette culture. On va pas chez un caviste seulement pour acheter des bouteilles.
Non.
On y va aussi pour la culture. Pour comprendre ce
métier.
Sinon,
les hypermarchés, c'est très bien.
Exactement. Moi, j'organise des voyages dans le vignoble. Là, j'arrive pour des clients. Je les ai emmenés hier, lundi et mardi, en Bourgogne. Ils ont découvert ce métier. Les doutes du vigneron devant, justement, on en parlera tout à l'heure, des changements climatiques, etc. Devant les excès caniculaires ou de froid des années comme 2024, où ils ont été dans le contraire total. Les vignerons, c'est les plus grands vignerons sont ceux qui ne savent pas. Ils ne s'instaurent pas en sachant. Ils disent je sais pas. Et ils font au fur et à mesure. Et c'est ceux-là qui ont une capacité d'adaptabilité énorme. Et souvent, ils ont quitté complètement la mémoire de leur école pour plutôt retrouver la mémoire des anciens.
Pour retrouver la mémoire des anciens, oui. On va y revenir sur cette mémoire des anciens qui permet justement, du fait de la tradition, de pouvoir s'adapter finalement à l'évolution. Parce que finalement tout ça est très cyclique.
Bien sûr.
Ce qui arrive là actuellement sur les fortes chaleurs, c'est quelque chose qui est connu.
Et bien sûr, 1870, 1893, 1886, 1869, 1859.
Ouais, c'est le 19e, ça.
C'est le 19e, on a des années, des périodes extrêmement caniculaires, très violentes.
Vous le savez, parce que vous avez encore vous avez récupéré les livres de cave,
Notamment la Romanée Conti, qui possède un livre de cave depuis 1800.
Oui.
Donc, malheureusement, beaucoup de choses ont été brûlées à la Révolution dans ces domaines prestigieux, issus de familles nobles, etc., ou le monastique, notamment l'abbaye de Cîteaux qui a été complètement détruite. évidemment que tout était écrit, c'est-à-dire la période glaciaire qui va complètement bousculer la viticulture en Europe dans les années, donc la fameuse ère glaciaire d'avant la Révolution française, qui va durer 130-150 ans. Il y avait de la vigne jusqu'en Suède à l'époque, puisque les moines voulaient absolument avoir du vin. Il fallait célébrer la messe, etc. Et puis les vins, les moines avaient droit, je crois, à 20 centilitres de vin par jour.
Ouais.
Bon, certains devaient peut-être un peu dépasser, voilà, par gourmandise. Mais, et donc, du coup, la vigne a reculé. C'est pour ça qu'il y a autant de pommiers en Bretagne de pommiers à cidre en Bretagne et en Normandie, ouais, puisqu'il n'y avait plus de vin. Et donc, le pommier résiste. Les pommes arrivent à mûrir quand même. En Belgique, on a augmenté le degré d'alcool de la bière. La bière qui était la boisson qui remplaçait l'eau, hein, pratiquement,
ouais,
parce que ça faisait 2,5 degrés à 3 degrés. Mmh. Et on a fait des bières à 8, 9, 10 degrés pour pouvoir remplacer le vin. Mais ça vient des effets climatiques. Alors évidemment que là, c'était un effet climatique exceptionnel. Il y en a eu deux, un au Moyen-Âge, enfin dans le millénaire, là, il y en a eu deux de façon extrêmement violente. Par contre, on voit bien qu'il y a des cycles plutôt de 30-40 ans,
ouais,
des cycles qui sont, si on prend la petite ère glaciaire qui vient après les années 50, après la guerre 39-45, on a on va dire une quarantaine d'années où on va vendanger au mois d'octobre. En plus, on a planté des plants. Et c'est là où on voit que la mémoire humaine est quand même grave, a été mise à mal par les écoles viticulture. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est mis à planter, à changer les origines de plantation. On a mis des plants, on a sélectionné des plants de plus en plus productifs. Notamment, on a inventé les clones anhydras avec l'argent du contribuable. Ça, c'est quand même intéressant. Sur lesquels, évidemment, il y a des grandes pépinières qui ont fait beaucoup d'argent. Et on a fait des plants productifs. Et évidemment, les plants productifs dans une période glaciaire, petite période glaciaire, on appelle ça la petite ère glaciaire, hein. On avait des hivers assez froids et
ouais,
surtout des étés pourris. Et en fait, le raisin n'arrivait pas à mûrir à plus de 7-8 degrés. Donc, c'est la grande période de la chaptalisation. L'industrie sucrière va en être ravie, hein, parce que je crois que le vin, à cette époque-là, consommait pratiquement 30 ou 40% du sucre produit en France pour augmenter le degré
d'alcool.
Donc on voit bien que tout ça a bougé. Et
là, on est sorti de cette ère, justement.
Ah oui, on est dans les années 90, il y a un basculement.
Vers plus de chaleur.
Voilà.
Qui n'a rien à voir avec un réchauffement climatique de nature anthropique.
Voilà, alors, je veux dire, là, ce qui m'étonne le plus dans tout ça, c'est que, ayant été à plein de séminaires sur le sujet pour essayer de comprendre dès les années 90, hein, quand on a commencé à en parler,
il y a 30 ans,
95, ouais. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des scientifiques qui ont des doutes, c'est-à-dire, on trouve dans les gens qui remettent en cause, c'est des gens qui ont des doutes, ils ont des hypothèses. Par contre, la doxa qui est formée par un certain nombre de scientifiques, là, il n'y a aucun doute, alors que la science s'est basée sur le doute, et là, il n'y a aucun doute. Et ce qui est drôle, c'est d'appeler ces gens-là, les gens qui peuvent remettre en cause, en tout cas qui mettent des doutes, on les appelle des climato-sceptiques. Le scepticisme est la base de la science. Sinon, ce n'est pas de la science, c'est de la religion. Et on est bien, et moi ayant monté un groupe de recherche dès les années 95, pas que sur le problème climatique, sur la vinification, etc., j'ai découvert à quel point j'avais une fascination pour la science, et j'ai découvert que la science est pleine de religions. On voit bien le boson de Higgs, le type, il a mis quand même 40 ans à le faire reconnaître, et puis etc., etc., et il y en a plein comme ça.
Donc, actuellement, on n'est surtout pas dans une période en tout cas glaciaire. Les températures augmentent, mais pas plus qu'elles n'étaient hautes à certaines époques citées là du 19e
bien
siècle.
Sûr, bien sûr, oui.
Comment faisait-on à l'époque? Ou à d'autres époques, comment faisaient les moines? Comment faisait la haute tradition? Les grandes maisons pour bien s'adapter justement à l'augmentation des températures.
Alors, il y a plusieurs choses.
Parce qu'aujourd'hui, on nous explique que c'est inéluctable, c'est catastrophique, il n'y a pas de solution.
Alors, il y a plein de choses. Hein. C'est difficile de répondre en quelques instants. Il faudrait des heures, malheureusement, et on lasserait les auditeurs. En fait, il y a un problème qu'il faut bien comprendre, c'est que à partir des années 50, on est vraiment dans la science. Comme je disais, mais la science dogmatique, donc la science a raison, les scientifiques ont raison, les œnologues ont raison.
Donc on fait table rase du passé, de la tradition. On est voilà. Sur la science dans sa en acception la plus scientiste, la plus positiviste, la plus révolutionnaire finalement.
Exactement. Mmh. Et en fait, moi j'ai découvert quelque chose à force de travailler avec des scientifiques, qu'en fait, faut d'abord partir, la source ça doit être la philosophie. La science doit être un instrument de recherche, mais pour les philosophes.
D'où la métaphysique.
D'où la métaphysique. Et là, le problème, c'est qu'on n'a plus de métaphysiciens. D'ailleurs, même Einstein disait à la fin de sa vie, je ne suis plus physicien, je suis métaphysicien. Il faut aller à la source. Et pour revenir à la question, en fait, dès les années 50, on va commencer, en plus, comme on est dans une période glaciaire et qu'on oublie le passé, on considère que c'est une période, c'est comme ça, c'est le climat normal. Et on va commencer à chercher, alors on va d'abord produire, parce qu'on est encore en productivisme, on va produire des plants, des clones, qui vont être productivistes, c'est-à-dire qui vont produire. Alors évidemment, on produit, plus la vigne a produit, moins il y a de degrés, moins, plus elle peine à mûrir, plus il faut attendre longtemps pour qu'elle mûrisse. C'est pour ça qu'en plus du climat, on va encore plus tarder à vendanger, c'est pour ça qu'on va vendanger qu'au mois d'octobre, des fois 15-20 octobre, parce que tout peine à mûrir. La vigne, on plante des plants, on des variétés, c'est toujours le même cépage, hein, mais des variétés qui vont avoir de la peine à transmettre la lumière à la racine, et donc pour pouvoir justement bien s'enraciner, sans parler du greffage dont on parlera tout à l'heure, qui est un autre problème. Et en fait, à partir de là, tout doucement, on va se rendre compte des erreurs, et à partir des années 90, on va dire « Non, non, il faut arrêter ces plants-là, il faut vite planter des plants qui produisent très peu, et qui font très très bon, qui mûrissent très bien, qui mûrissent vite, etc. » Donc là aussi, on a, si vous voulez, d'un côté, on a amplifié le phénomène climatique quand il a fait froid, dans les années 50-60, on plante des plants productifs, donc évidemment, ils ont encore plus de peine à mûrir qu'un plant normal. Et puis dans les années 90, on va faire des sélections pour faire de la super concentration, parce qu'on est dans la mode du vin bleu, le vin très épais, comme disait ce grand personnage René Renou, le plus grand président de l'INAO qu'on ait eu sans doute, que 4 ans malheureusement. Et en fait, on va faire des vins qui ne sont plus de terroir, parce que la dilution excessive ne donne pas de goût de terroir, n'exprime pas le terroir. Et la concentration excessive aussi. Donc c'est un chemin du milieu. On n'aime pas le chemin du milieu. Hein. C'est pas quelque chose de très agréable à penser. Mmh. C'est plus facile de se mettre dans les excès. Voilà, les extrêmes. Et d'ailleurs, on a maintenant l'extrême centre, vous voyez. Donc,
voilà,
même le centre est devenu extrême.
Même la voie du milieu
voilà.
Est extrême.
Voilà, donc c'est intéressant. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va planter, donc faire des sélections de plants qui vont donner très peu de raisins. Et évidemment qu'ils vont mûrir plus vite. Alors donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Là, comme on est en réchauffement, là, on court derrière et on vendange au mois d'août. Si vous voulez, c'est quand même intéressant de voir comment on amplifie les phénomènes
en plus.
Par la panique. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une réflexion paysanne, notamment les moines qui étaient sur le temps long. On a perdu le temps long en viticulture.
Oui.
On l'a
vu. Il n'y a pas qu'en viticulture d'ailleurs.
Il n'y a pas qu'en viticulture évidemment. Cette notion de temps long nous ramène à l'intemporalité. Là aujourd'hui, le temps court nous amène à l'immédiateté et les réactions sont brutales. Oui. Elles se font dans la panique. Elles ne se font pas dans la véritable intelligence, interlogos, les liens, l'interlien. Et c'est là le problème qu'on a. Là, par exemple, il y a un château à Pomerol qui est un des plus beaux emblèmes de l'appellation et de tout Bordeaux, qui a quitté l'appellation.
C'est ça.
Parce que l'appellation oblige à une certaine surface foliaire, c'est-à-dire la taille de la partie végétale de la vigne, là où il y a les feuilles. Alors que justement, c'était l'outil d'adaptabilité que les moines utilisaient pour fonctionner en fonction des années climatiques.
Ouais.
C'est-à-dire les années chaudes, on baissait la canopée, c'est-à-dire cette partie végétale, pour avoir moins de panneaux solaires.
Oui.
Et les périodes froides et humides, la lumière tamisée, hein, des années comme par exemple 2024, hein, on augmentait la canopée pour capter de la lumière et pour améliorer la maturité des raisins.
Mmh.
Aujourd'hui, c'est réglementé dans certaines appellations.
C'est
complètement
voilà.
fou.
Et, donc, c'est totalement rigide, c'est dogmatique, c'est voilà. comme ça et ça ne doit pas être autrement. Donc on refuse d'évoluer selon justement des variables aussi essentielles que le climat.
Voilà, et c'est quelque chose que les moines ont fait pendant un millénaire. Donc, et nous, on n'est pas capable aujourd'hui de comprendre ça. C'est-à-dire qu'on a augmenté la canopée dans les... Enfin, certains vignerons ont compris, moi, mon père nous en parlait quand j'étais gosse, d'augmenter la hauteur de la canopée. Parce qu'on était dans les années 60-70, c'est-à-dire qu'on avait de la pluie incessante, de froid, etc. Des étés parfois pourris, des mois de septembre horribles. Et donc, on cherchait la lumière, on cherchait à capter de la lumière. Et là, aujourd'hui, on augmente la canopée encore. C'est-à-dire qu'il y a des vignerons aujourd'hui qui sont encore en train d'augmenter la hauteur de leur vigne pour capter plus de lumière. Ils sont en train d'assécher leur sol, c'est-à-dire que ces années de sécheresse comme 76, là, parce que là, pour l'instant, on n'a pas vécu la sécheresse de 76. Hein. Depuis 76, on n'a pas revécu une canicule associée à une sécheresse. 76, je crois que c'est à peu près une vingtaine de jours au mois d'août, 100 degrés d'humidité dans l'air. C'est-à-dire, même la nuit, pas d'humidité dans l'air. J'ai mieux vous dire qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de récolté de vin. Hein. Et si on remonte à 1893, mon arrière-grand-père, moi je l'ai très peu connu, mais il a transmis toutes ses histoires à mon père. Mm-hmm. Mon arrière-grand-père, il racontait qu'en 93, ils avaient semé les avoines, les orges, les blés de printemps, donc au mois de mars à peu près. Ils n'ont jamais vu l'eau. Alors vous voyez que on n'avait pas dégradé les sols parce que sinon rien n'aurait poussé. Hein. Ouais. Ce serait aujourd'hui, rien n'aurait poussé. C'est-à-dire que là, le sol a quand même fonctionné. Il y a eu de la capillarité. À l'époque, ils cultivaient les céréales. Hein. Attention, on désherbait pas. On avait des petites griffes qui passaient entre les rangs. C'est-à-dire qu'on semait les céréales en rang, ouais. en rangée, comme les maïs, mais plus étroits. Et il y avait des petites griffes. On passait avec le cheval des petites griffes qui binaient les céréales.
Mmh.
Et le fait de biner. Les anciens disaient, un binage vaut deux arrosages. Parce que ça fait remonter l'eau, ça aspire l'eau, le travail de l'homme. Et eh bien, ils ont récolté quand même. Mais, évidemment, une très faible récolte. Ça, c'est, je parle pour les céréales, là, cette fois. Et ils ont demandé aux enfants de participer à la récolte, puis à la moisson, puisqu'ils n'ont pas sorti les faucheuses lieuses. Ils ont arraché les céréales. Pour avoir de la paille, parce que les brins de paille étaient tellement courts, pour avoir de la paille pour les animaux, pour l'hiver.
Mmh.
Donc, voilà, ça c'est 1893.
Ouais.
On n'y est pas, hein. On n'y est pas à ça. Voilà, même 76, c'est inférieur à 1893 au niveau de la sécheresse.
Ouais, bah.
Voilà. Et 1893, en revanche, comme les vignes étaient encore non greffées, voilà, là on y vient aussi hein, au problème du greffage,
ouais.
comme les vignes étaient non greffées, et que les sols étaient cultivés en bio par défaut, puisqu'on ne savait pas ce que c'était que le bio, c'était comme ça, eh bien les gens ont récolté. Les vignes ont emmené le raisin jusqu'au bout, et c'est un des millésimes emblématiques, historiques. Même les liquoreux, j'ai bu l'autre jour, hein, 1893, qui sentait la truffe blanche de façon incroyable à Janières, hein, le fameux domaine Mété qui a produit du vin pendant 250 ans sans en vendre, sans alors, jamais en vendre.
Janières, c'est à côté de Vendôme.
Entre Vendôme et Le Mans.
Oui.
Voilà, une appellation presque disparue aujourd'hui, je crois que c'est 60 hectares de vignes. Il y a trois vignerons un petit peu célèbres. Là, ce domaine-là était inconnu et a gardé un trésor en cave. Et on a bu un 1893 absolument divin, qui était d'une jeunesse, enfin qui n'avait pas d'âge, pas d'âge.
Mais, il avait juste 130 ans.
Voilà, mais ça nous montre grâce au vin, on a des témoignages comme ça de ces millésimes 1869 en Bourgogne. en franc de pied, hein, le franc de pied, c'est-à-dire non greffé par le, avec le greffon américain, ça a été vendangé la même semaine que 2019, donc millésime solaire, hein, 2019, et avec un degré de plus, alors que le franc de pied, normalement, ne fait pas de degré. Un degré de plus que 2019 à la Romanée Conti, vous vous rendez compte? Voilà, ça c'est quand même spectaculaire, ça veut dire qu'on avait des millésimes extrêmement chauds. Et encore une fois, moi je dis pas que, je suis pas en train de dire que on n'a pas une influence, le gaz entre les effets humains n'ont pas de... Je pense plus aux ondes, hein, moi, hein, je pense que la charge d'ondes qui se promène dans le ciel aujourd'hui, et dans nos têtes, hein, parce que ça traverse nos têtes et ça traverse notre conscience.
Oui, je pense.
Il faudrait quand même pas oublier que la conscience, c'est des fréquences. Hein, donc maintenant, les physiciens commencent à le dire. Et que, d'ailleurs, on voit bien que moi, j'ai des amis qui sont partis à la campagne. On voit qu'ils pensent différemment au bout d'un moment. C'est marrant, hein. Ils finissent par penser différemment. Parce que, tout simplement, on devient un peu plus conscient quand on est libéré. Même si des champs d'ondes, il y en a partout aujourd'hui. Artificiels, il y en a partout. Mais j'invite les gens à prendre conscience de ça, parce que je pense que par contre ça, parce que les ondes, le solaire, c'est pas de la chaleur, hein. Le soleil ne produit pas de chaleur, il produit des ondes, hein. Ces ondes se transforment en chaleur quand elles touchent quelque chose. Voilà. Donc imaginez les champs d'ondes dans lesquels on est bousculé, dans lesquels on est dans un océan d'ondes qui sont pas des ondes naturelles. Imaginez ce que ça peut donner à terme. Je ne suis pas sûr que le gaz carbonique ait autant d'influence.
Ouais. Ce que je propose, Bruno, c'est... On est dans ce florilège des arts avec Bruno Queneau, le patron de Philo Vino, sur l'actualité du vin. Rendez-vous annuel. Ce que je propose, c'est un très court bobino, mon cher Bruno, et puis on revient tout de suite après.
À tout de suite.
À tout de suite.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Eh bien, vous êtes dans ce florilège des arts avec Bruno Queneau sur Radio Courtoisie. Rendez-vous sur l'actualité du vin. Nous les avons, je crois, chaque année, 2025, 2024, 2023. Ça fait des années que nous faisons, en plein cœur de l'été, durant nos estivales, cette émission d'actualité sur le vin. Et j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour parler de peut-être un ou deux vins, qu'on se régale un peu avant de se quitter de cette émission de Florilège des Arts, peut-être sur la consommation. Donc il y a une baisse de la consommation du vin aujourd'hui, indéniable. On a expliqué qu'une des raisons de cela était peut-être une certaine propagande qui se déverse actuellement, hostile au vin. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette baisse? Elle est tangible, c'est une pente qui est peut-être douce, mais qui conduit vraiment vers des baisses drastiques de consommation du vin aujourd'hui, Bruno, en France?
Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a la baisse de la tendance qui existait, hein, depuis maintenant une quarantaine d'années, on va dire. Hein. On avait, ça a commencé par la diminution tout doucement du pinard, hein, qu'on a transformé en grosso modo, les industriels ont compris et ils ont utilisé des levures aromatiques, etc. Et on a fait des vins qui apparaissent comme n'étant pas du pinard, mais qu'en sont toujours, en fait, hein. Mais qui sont un peu moins... quand on mettait le nez dessus sur le pinard, des fois, ça arrachait un peu. Et donc, on n'avait pas vraiment envie d'en boire. Mais c'était des habitudes, des consommations comme ça. On avait sa dose de vin. C'est pas la plus belle consommation que c'est pas celle que j'aime. Mais il y avait quelque chose quand même d'assez vrai là-dedans par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a corrompu le vin, on a par des technologies. On a fait des vins qui peuvent paraître séduisants, hein. Le sucre dans le jambon, c'est séduisant, hein, mais c'est pas du vrai jambon.
La confiture dans le jambon.
Voilà.
Il paraît que j'aime ça.
Voilà. Et donc, Tout ça, c'est clair que tout ça n'a pas arrangé le vin. Mais il y a aussi toutes les attaques. L'OMS, la médecine, qui n'arrêtait pas avant, le médecin conseillait un verre de vin rouge le soir aux gens pour être en bonne santé. Et aujourd'hui, surtout pas. Vous dites à un médecin que vous buvez deux verres par jour, il y a la plupart des médecins qui vont vous dire « mais vous êtes alcoolique, etc. » En fait,
pas plus de deux verres et pas tous les jours.
Et pas tous les jours, hein, voilà, c'est la, voilà, c'est la répétition, etc. Ouais. Et en fait, je crois qu'il y a ça. Il y a aussi les phénomènes sociologiques. Hein. Bon, il y a le téléphone, hein, c'est qui est une drogue. Hein. Les gens ne parlent plus entre eux, ils sont à table, ils sont tous sur leur téléphone. Oui, le vin, c'est la communion, c'est le partage.
Ah, oui.
On est dans un monde de séparation. Einstein disait « la séparation est une illusion ». Nous ne sommes pas séparés, unis vers, hein, vers le un. Donc on est un, on est un. Et la communion, justement, célèbre cette unité dès que c'est Yeshua qui disait « quand vous serez deux dans la maison, faites le un et vous abattrez les montagnes ». Parce que deux personnes peuvent communier et avoir la force de l'univers. Et c'est là où ça, aujourd'hui, c'est en train de, tout est en train de se séparer. On voit bien qu'il n'y a plus de débat d'ailleurs, hein. On ne peut plus. Tout de suite, c'est des mots d'insulte vis-à-vis de l'autre qui est en face.
C'est une juxtaposition.
Exactement. Donc il n'y a plus de quête de vérité.
Non.
La dialectique a disparu. Et on voit que, ben justement, le vin, c'était on trinque ensemble. Trinquer, c'est vraiment un acte fabuleux. C'est vraiment, puisque le vin symbolise le sang, hein, symbolise le sang, donc on échange le sang, c'est-à-dire qu'on est en train de trinquer à l'esprit. Le sang, c'est l'esprit. Hein. Donc, et c'est tous ces symboles-là qui sont en train de tomber. Toute la drogue, dans les, aujourd'hui, moi je pensais que ça n'arriverait pas, que dans les villes, le nombre de gens qui consomment des nouvelles... des drogues qui sont devenues, d'ailleurs même la cocaïne est devenue banale. Avant on pensait que c'était une drogue dure, maintenant c'est banal. Avant c'était le petit joint, puis tout doucement on va plus loin, puis c'est vrai que la cocaïne ça nous emmène, mais là c'est vraiment dans l'illusion, parce que ça développe l'ego, et c'est de l'illusion totale de la séparation, hein. Alors là on va très loin, on est surpuissant, mais on n'est pas puissant ensemble, on est puissant tout seul. Donc tout ça c'est un ensemble de choses de la société, c'est pour ça que je parle de sociologie, je pense que là, sociologiquement, on voit bien que, et d'ailleurs, on voit toutes les informations qui nous sont données en dehors des dossiers de fond, tout ce qui est dans l'immédiateté, c'est, encore une fois, l'immédiateté, c'est la séparation. Moi, ce qui m'intéresse dans les médias, c'est les dossiers de fond. Hein. Ouais. Quand... je parlais l'autre jour avec Nelson Montfort, je ne savais pas qu'il était, son parrain était Jacques Chancel. Et je lui parle de Jacques Chancel, je vois une petite larme couler, et il me dit, c'était mon parrain, il m'a tout appris, toute cette culture. Et il disait toujours, je ne donne pas ce qu'ils ont envie d'avoir, je leur donne ce qu'ils pourraient recevoir, ce qu'ils pourraient vivre, ce qu'ils pourraient les faire grandir.
Oui.
C'est quand même une autre... Par rapport aux médias, aux grands médias qu'on a aujourd'hui, c'est terrible. Le vin, c'est ça. Parce que quand on boit du vin, on boit du temps et du silence. Parce que le vin se fait dans le temps et le silence. Aujourd'hui, on a des vignerons qui sont bruyants. Là, les quatre vignerons qu'on a visités, on a visité en Bourgogne, moi j'appelle Filovino le club des vignerons silencieux, et les sept personnes que j'ai emmenées m'ont dit « Ah ouais, c'est vraiment des taiseux. » Parce que c'est des gens qui prétendent ne pas savoir. Ils sont devant la nature, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Et quand le raisin est cueilli, le souffle du vin doit agir pour révéler le terroir. Et si c'est leurs interventions qui risquent de couper, de corrompre le terroir. Donc il faut qu'ils soient très vigilants. Le vin n'est pas élevé en tant qu'élevage, c'est une élévation. On n'élève pas nos enfants, c'est pas de l'élevage, c'est une élévation. Le vin, c'est pour ça que c'est les mêmes mots. Hein, mais on a confondu avec l'élevage animal. Donc on dirige. Non, le vin, c'est le vin qui se dirige.
Et puis il y a une parabole entre l'enfant, l'éducation et la vigne.
Hein. Voilà.
On sait bien que si elle n'est pas, s'il n'y a pas un tuteur, si elle n'est pas redressée, elle va se balader, elle cherche au plus simple son soleil, mais elle grimpe et elle est totalement anarchique.
Exactement. Exactement. Donc c'est tout un cheminement lent. Un vigneron, il n'a que 40 ans d'expérience. 40 vendanges, c'est rien du tout. Et c'est pour ça que s'il ne s'inspire pas des anciens, et c'est là le problème des écoles, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait que les profs dans les écoles aillent rencontrer des anciens, mais non, ils n'ont rencontré que des profs. Et donc, les profs n'ont jamais fait de vin. Voilà, ils n'ont jamais subi la vigne pendant 40 ans.
Les profs enseignent aux profs.
Les profs enseignent aux profs.
Alors, qu'est-ce que ça donne justement en matière de consommation, tout ça, pour revenir à nos moutons?
Bien sûr. Eh bien, voilà, comme je disais, le vin, ça active la curiosité. On n'est plus dans la curiosité parce que le téléphone nous donne le savoir sans l'apprendre. Le vin, ça s'apprend. Le vin, ça se creuse. Une cave que vous faites, vous l'aimez. C'est comme le vigneron, il va aimer tous ses vins. Mais en spectateur, parfois désolé ou enchanté. Nous, dans notre cave, chacun, on a une cave qu'on construit d'année en année. Et puis on les goûte les vins, puis on se dit, mince, j'ai vraiment changé. J'aime plus ce vin-là. Mais on l'aime quand même, parce qu'on l'a aimé. On ne peut pas le désaimer. On va le boire quand même, avec des amis. Mais, si vous voulez, ça montre le changement. Alors, il y a des gens qui ne changent jamais de goût. Mais, tant mieux s'ils ont rencontré le juste tout de suite, s'ils sont Mozart, le Mozart du goût. Mais c'est rare, parce qu'on s'épure. C'est comme, là, j'avais dans mes clients, que j'ai fait voyager, j'avais un grand maître de Kyudo. Donc le Kyudo, ça vient du Kyushu au Japon, qui est cet art de l'arc. Alors, c'est un arc qui fait plus de 2 mètres de haut. Hein. Je ne sais pas si les gens ont déjà vu ça, mais c'est impressionnant. Mmh. Et il dit, on apprend sans cesse à désapprendre. Parce que justement, on enlève. On ne prend pas des choses, on n'apprend pas des choses, on enlève quelque chose pour être juste. Et quand plus on est juste, plus le geste va être juste. Donc, c'est vraiment un dépouillement. Le vigneron passe par un dépouillement. Au début, il sait, il a appris à l'école et tout, et puis d'un seul coup, tout va se barrer. Enfin, il y a des années comme 2024, où d'un seul coup, il croyait qu'il avait la biodynamique, qu'il savait faire, etc. Ben là, ça, d'un seul coup, ça part à Wallow, puis c'est fini. Et voilà. Et donc, en fait, pour revenir à ça, le vin, ça enseigne le temps, ça enseigne le silence, ça enseigne une humilité. Puisqu'un vin qu'on va boire aujourd'hui, c'est pas le même demain, même si c'est la même bouteille. On est surpris, on se dit bah, pourtant mince, je l'ai bu hier, ouais, je suis pas avec les mêmes copains. Carmé disait, j'ai même vu des vins disparaître à la présence d'intrus, réapparaître après son départ. Allez donc savoir ce qui se passe dans la tête d'un vin qui ressemble à celui qu'il a fait. C'est ça le vin. Et si vous voulez, ça correspond pas à l'attente mentale de cette griserie de savoir rapide qu'on a aujourd'hui. La bière correspond, les alcools forts correspondent, c'est fait très rapidement. Une bière en 8 jours, c'est fait. Le vin, le vigneron qui a planté la vigne, il la plante pour ses enfants, voire pour ses petits-enfants. Il s'est peut-être trompé. Et donc, quand il plante, s'il commence à penser comme ça, alors moins maintenant, parce que avec le pied américain, les vignes meurent plus tôt. Mais avant, les vignes pouvaient durer 200-300 ans. Ouais. Vous vous rendez compte que quand vous plantez une vigne, vous plantez pour 3, 4, 5 générations après. Ça demande une sagesse incroyable. S'il n'y a pas de philosophie là-dedans, ça ne marche pas. Voilà. Alors c'était une philosophie qui ne ressemblait pas avec les mots de Platon. Ce n'était pas les mots de Platon, c'était des mots de paysan. Mmh. Mais c'était une philosophie qui était tellement belle. Parce que on plantait pour la lignée, pour demain. Et le cep de vigne, c'est ce que ça signifie dans la tradition. Ça signifie l'enracinement, l'enracinement humain. Pourquoi le vigneron était encore plus que le paysan un enraciné? Et quand on boit ces vins-là, on s'enracine. Donc ça, c'est ce qui manque Le vin n'est pas compris aujourd'hui. C'est trop lent. L'apprentissage du vin, c'est trop lent. Il faut apprendre. Alors que le savoir, on l'a sur un portable.
Oui, mais ils ont pensé que ça tendrait plutôt à faire monter les courbes, l'urgence de boire, la rapidité, l'accélération des choses. Ils se sont dit, plus on accélère, plus ils vont consommer.
Oui.
Sauf que ça a l'air d'être une courbe en cloche. C'est-à-dire que ça marche jusqu'à un certain point, ça, et après, ça se casse la gueule.
Là, ça se casse vraiment la gueule. C'est-à-dire que là, on est vraiment, on prend des moins 25%. C'est une vitesse absolument incroyable. Avant, c'était 1-2%. Oui, alors la France est très, très touchée parce que c'était un pays qui restait un consommateur assez important.
Ouais.
Même si il n'y a plus beaucoup de gens qui boivent du vin. Hein. Ça reste, aujourd'hui, c'est une minorité qui boit du vin.
Ouais.
Et en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui boivent du vin une fois par mois.
Ouais.
Même pas. Et il y en a qui n'en boivent jamais.
Uh-huh.
J'ai fait un dîner il n'y a pas très longtemps. 55-75 ans de moyenne. On était 15 personnes, parce que toute la presse ou ça nous dit c'est les jeunes qui boivent plus de vin, mais pas du tout, pas du tout.
On a l'impression d'ailleurs que sur les terrasses à Paris, beaucoup de jeunes reprennent un verre
exactement.
De blanc. De
là, sur les 55-75 ans, il y avait 3 personnes qui buvaient du vin, voilà, et pas parce qu'il y avait la voiture à prendre. Hein. Non, c'est on boit. Ah ben non, on boit pas de vin. Ah ben non, c'est moi je voulais servir du vin.
Et c'est la propagande qui est un peu de cela, c'est-à-dire que c'est l'image que ça renvoie. Vous buvez du vin, c'est que vous êtes un alcoolique ou vous.
Alors je pense qu'il y a un mimétisme, hein, tout doucement.
Je crois. Hein.
Les hygiénistes ont réussi une communication incroyable.
Mais oui.
Et en fait, on est des gens bien, on boit pas.
Oui,
on est des gens bien, on ne boit pas.
Oui, oui, j'exclus pas ça.
Voilà, on est sans doute plus intelligents que les autres.
Sûrement.
Voilà. Ça me fait rire. Hein. Franchement, ça me fait rire. Hein. Quand il y a des débats philosophiques derrière, si vous voulez, c'est souvent un peu léger derrière, parce qu'il y a rarement un niveau très élevé. Bah, quand on est dans le mimétisme, c'est qu'on se marche dessus déjà, hein, parce que c'est quand même.
Il y a la peur de la maladie, la peur de la mort. On vous explique que si vous buvez trop de vin, vous allez mourir dans notre souffrance rapidement, et plus jeune que vous n'auriez si ce n'avait pas été le cas. On joue quand même beaucoup sur les peurs. Hein,
Ah oui, non, mais l'autre jour, il y avait un pot. J'habite dans un village dans l'Essonne, il y avait un pot de la mairie. Et donc, on y va avec mon épouse, et puis il y a des gens qu'on connaît, voisins, qui vont à la messe tous les dimanches. Ils distribuent même la communion, etc., ouais. L'hostie, etc. Ah, bon. Des gens très sympas, d'ailleurs, très bien. Et j'arrive de ce pot de la mairie, je dis, mais il n'y a pas de vin. Il y avait du punch, mais il n'y avait pas de vin. Et lui, il me dit, ah, mais moi, je ne bois pas de vin. Ah ouais. Et il me dit, tu sais que mon frère a arrêté de boire du vin, il a perdu 10 kilos
ah bah oui.
En quelques mois. Et je le regarde, je fais, mais qu'est-ce qu'il mangeait avec? Et qu'est-ce qu'il buvait comme vin? Était-ce du vin? Il me regarde, je comprends pas, c'était du vin. Ah waouh, 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 waouh. Alors là, ça fait peur. Hein. Déjà, c'est comme si des tomates, c'était des tomates. Non, moi, il y a des tomates que je mange pas. Mais le vin, c'est encore pire parce que ça peut être très corrompu. Et puis surtout, c'est un amplificateur. La fusion eau et feu, c'est un amplificateur. Si on a mis des saloperies dedans et des mauvaises pensées, eh bien, vous allez boire ces mauvaises pensées. Donc, et là, je lui dis, mais vous êtes catho ? Il me dit, ouais. Et je dis, mais tu distribues la communion, tu distribues l'hostie. Ouais. Ah, je dis, oui, c'est vrai que vous ne distribuez plus le vin à la messe. Et je dis, tu sais que ton frère, il va avoir un corps parfait, mais par contre, il nourrit plus son esprit. Parce que le vin, si tu as bien lu la liturgie, le vin, c'est la nourriture de l'esprit. C'est une boisson christique. Alors, ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, c'est le sang, c'est la vibration christique, c'est une vibration christique. Quand le vin a atteint son ultime vin, il est boisson christique. Donc, il révèle le Christ en toi. Ah, il me regarde, il me dit, ah, j'avais jamais vu ça comme ça.
Ah, bah oui.
Ah, j'y sais quand même, fabuleux. C'est fabuleux, il y va tous les dimanches. Voilà. Même à l'église, on boit
est-ce
plus
qu'il s'est remis à boire au moins?
Ah, je sais pas, mais je pense que je l'ai perturbé. Voilà.
Ça, sûrement, oui.
Voilà.
C'est un discours voilà, qu'il faudrait tenir. On le tient sur Radio Courtoisie, hein, au risque d'être censuré ensuite comme étant des propagateurs de mauvaises pratiques. Voilà. Mais alors, la consommation, donc, en effet, baisse beaucoup. Il nous reste une douzaine de minutes. Bruno, j'aimerais peut-être qu'on parle d'une ou deux découvertes que vous nous que tu nous régales de tes d'une ou deux descriptions ou d'un ou deux vins qui t'a marqué, qui est une tendance peut-être, je ne sais pas. T'aimerais nous parler de quoi cette année ?
Alors, tout à l'heure, t'as abordé le sujet des rosés. Moi, je pense que ça, c'est vraiment un vrai sujet. D'abord, le succès qu'a eu le rosé ces 20 dernières années, il est venu aussi en partie par ces écoles de journalistes, de sommeliers, de cavistes, qui voulaient des vins rouges, noirs, épais, puissants. Plus c'était puissant, meilleur c'était. Oui. On avait complètement oublié le subtil. Le vin, c'est un dépouillement. C'est une libération de l'espace dans la matière. Pour que l'énergie passe, pour que la lumière passe, il faut de l'espace. C'est la chapelle, la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle, il n'y a pas de mur. Il n'y a que de l'espace. Ben, c'est pour ça qu'on reçoit la lumière. On est enivré quand on rentre dans la Sainte-Chapelle. Et ben, le vin, c'est pareil. C'est pour ça que les grands Bourgognes sont redevenus l'étalon mondial du vin. Parce que c'est les grands vignerons de Bourgogne savent qu'ils ne concentrent pas le vin, ils libèrent de l'espace, ils dépouillent. Et donc, évidemment, que ces vins rouges tout noirs, très épais, ben, on fait fuir toute une clientèle, notamment les femmes qui pouvaient pas, certaines femmes qui pouvaient pas les boire.
C'est sûr.
Et puis surtout, ben, on finissait le repas, on avait la tête dans l'assiette. C'était, et le lendemain, quand on se lève, on est fatigué. Le vin doit donner de l'énergie.
Ouais.
Le vin, c'est de l'énergie qui fait vibrer la matière. Comme il y a des humains, on les voit, c'est l'énergie qui les porte, c'est pas la matière, c'est pas leur corps qui les porte. Ça change tout. Il y en a un qui est plus fatigué que l'autre. Et il y en a un qui est plus fatigant que l'autre, d'ailleurs. Et donc, en fait, si vous voulez, j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire, justement.
C'est le rosé.
Voilà, le rosé.
On parle du rosé.
Et donc, le succès du rosé est venu de là. Malheureusement, tout ce qui a du succès est très très vite mis dans les mains du mercantilisme qui veut faire de l'argent avec. Je prends toujours l'exemple de la cuvée du patron dans les auberges.
Ouais.
La cuvée du patron, à l'origine, c'est un truc génial. Le patron de l'auberge, l'aubergiste, il allait voir ses voisins, ses jours de fermeture, il allait faire le tour des popotes pour trouver son vin de la cuvée du patron. Les gens qui allaient dans l'auberge, ils prenaient la cuvée du patron avec la terrine, machin, et ils savaient qu'ils allaient boire un bon coup de vin. Parce que le mec, il finissait par s'y connaître un petit peu. Il goûtait les vins, il disait, tiens, ce vigneron-là, il fait mieux que la pistanée, bah, il a fait mieux là, je l'ai pris là. Et bien, d'un seul coup, bah, tous les groupes de brasseries faisaient la cuvée des patrons pour toutes les brasseries. Voilà. Et c'est devenu de la merde. Vous prenez jamais la cuvée du patron. Bah, le rosé, c'est pareil. D'un seul coup, le rosé a du succès. Eh ben, le mercantilisme arrive.
Oh là là.
Et c'est terrible parce
les
que
vins
le rosé,
gris.
Voilà.
Et puis alors après, ils y rajoutent du pamplemousse.
Ah là là, les vins, les rosés piscines, etc. Et des fois vendus cher, hein, parce qu'il y a des marques qui fonctionnent bien. Hein. Et il y a des cavistes, je le sais, des collègues bien intentionnés, mais qui finissent par céder à un moment donné parce que la demande de certaines marques est tellement forte qu'ils finissent par se dire. Je vais quand même en vendre parce que quand il y a 5 clients par jour qui viennent demander une bouteille, ça fait du chiffre à la fin de l'année. C'est dommage parce que le rosé, alors d'abord il y a eu, moi je les cite souvent parce qu'il y a eu le domaine Tempier à Bandol qui n'a jamais cédé à la tentation, qui a toujours fait des grands rosés. Aujourd'hui, il y a des grands rosés et je peux vous dire que moi j'ai, alors ça fait drôle toujours parce que Filovino d'organiser un atelier sur le rosé, donc les gens se disent ouais, Filovino il déconne un petit peu. Je peux vous dire que on a eu moins de monde que d'habitude parce que évidemment bon on s'est un peu raté sur la date avec les matchs de football.
Ah bah.
Ça c'est sûr, voilà.
Ah oui, mais et puis bon c'est pas la Romane et Conti.
Voilà, exactement. Mais je peux vous dire malgré tout que ceux qui étaient là, ils n'en revenaient pas de la du niveau de certains rosés. Je parle souvent de rosé de Tavel du château de Manissy.
Il y a cela aussi.
Voilà. Il y a le Gros Noré Bandol en Bandol aujourd'hui, qui est un rosé absolument invraisemblable, une longueur en bouche. Et tout le monde dit, mais ça vaut des grands blancs.
Il y a des très bons cassis aussi.
Des très bons cassis. Il y a en Corse.
Alors oui.
En Corse, il y a le domaine notamment Alzipratou qui fait un rosé, mais à tomber par terre. Mais je peux vous garantir que c'est pas du rosé piscine, hein, c'est du vin avec une très belle fraîcheur, parce que les gens ont tout de suite peur, ils disent oh merde, la matière, ça va. Mais non, c'est tellement meilleur que ces rosés piscine, que ces rosés gris là. Et puis il y a la crête et la graisse. qui font des rosés exceptionnels. Les rosés de Xino Mavro en Aoussa chez Timiopoulos sont exceptionnels. Les rosés de Zumberakis en Crète, avec le cépage Iatico, ce fameux cépage de grand rouge de la Crète. Donc il y a les rosés, c'est quelque chose à découvrir. Je trouve ça dommage que plein d'amateurs de vin refusent de goûter du rosé. Ils disent « Ah non, c'est pas un truc d'amateur, c'est pas un truc de sachant. » C'est terrible, terrible. Il faut boire du rosé, voilà.
Voilà, il faut boire de tout.
Il faut boire de tout, voilà. Voilà. Un peu moins de vin orange, parce que ça aussi, c'est une grosse... si vous voulez, ce qui est terrible, c'est comment le marketing prend tout et comment on déguise tout. Ouais. Les vins orange...
On a le bonhomme orange aujourd'hui, voilà. C'est le président des États-Unis d'Amérique.
Voilà. Alors, j'ai rien contre la couleur orange, mais surtout, ce que je regrette, c'est que tout le milieu, notamment des vins nature, a fait croire que le vin orange, c'était l'origine du vin. Comme la Géorgie, c'est une des deux origines du vin avec l'Arménie. Bon, maintenant, on sait que l'Arménie, c'est un peu plus vieux. Comme il y avait du vin orange en Géorgie, eh ben, c'est l'origine du vin. Ça ne représente que 2% de la production en Géorgie. J'ai fait venir des bouteilles fabriquées par des monastères, donc des monastères orthodoxes de Géorgie, qui font des vins, mais dans le même style que nous. Oui. Alors, c'est pas des grands Bourgognes, etc., mais des rouges très bons, des blancs très bons. Le vin orange, c'est marginal, parce que c'était des toutes petites productions de gens qui savaient souvent pas conserver le vin, et surtout le blanc, qui est plus difficile à conserver. Mmh. Et donc, ils les mettaient dans des jarres, ils fermaient la jarre, ils laissaient fermenter à l'intérieur. Ça part plus en dessiccation qu'en essentialisation. Ça sent plus souvent le mauvais cidre fermier ou la mauvaise bière, ouais. Parfois pire. Et il y a des gens qui boivent ça. Tant mieux, mais tant mieux pour eux.
Tant mieux pour eux. Il nous reste, une dernière évocation. Une dernière...
Là aussi, il y a encore des modes, il y a beaucoup de marketing dans le vin. Si vous voulez. En ce moment, il y a une espèce de Bourgogne bashing. J'ai encore entendu l'autre jour un sommelier qui racontait aux gens...
C'est fou, ça recommence.
Voilà, après le Bordeaux bashing, maintenant le Bourgogne bashing.
Un défenseur du Bourgogne aujourd'hui, heureusement dans ce studio.
Voilà, parce que soi-disant... Alors le type, il va très loin, il a même été juste... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Bourgognes ne se conservent plus, ne tiennent plus, etc. Et qui sont très chers. Alors évidemment que la Bourgogne, c'est une région qui est un peu plus chère que les autres.
Certes.
Il y a une trentaine de vignerons, avec le succès de la Bourgogne, qui ont explosé leur prix. Et c'est marginal. Il y a plein de gens en Bourgogne qui n'augmentent pas les prix et qui font des vins exceptionnels. Mais plein de cavistes, plein de sommeliers ont voulu avoir les dernières stars. On veut les avoir sur notre carte. On les vend aux clients à des prix fous. Et après, quand le client revient et qu'il trouve que la bouteille n'est pas top, eh bien, on se retourne contre la région. Non, il faut se retourner contre soi-même. Moi, je n'ai jamais vendu ces bouteilles-là. J'ai toujours vendu des bouteilles de gens... on parle toujours du domaine Rousseau.
Oui.
Le domaine Rousseau, quand on goûte les bouteilles 20 ans après... C'est toujours là. Quand on met ces
dégustations, c'est très cher. Quand même.
C'est très très cher parce qu'il y a une énorme spéculation. Ouais, mais le domaine, à l'origine, c'est pas si cher que ça quand ça part du domaine.
Ouais.
C'est surtout ça. Aujourd'hui, il y a une telle spéculation sur le domaine. Mais quand on compare tous ces vins de mode, ces vignerons bourguignons qui sont à la mode là, je vais pas les citer parce que je vais me faire exploser. Ça a été tellement, ils ont été édifiés en dieu du vin. Ouais. Et puis aujourd'hui, quand les gens goûtent les vins 5-6 ans après. Puis qui compare à des domaines comme Rousseau, qui n'ont pas bougé, des domaines comme Arlot, qui sont beaucoup moins connus, enfin qui commencent à être très connus, mais c'est des gens qui ne bougent pas les prix, tout ça. Et quand on compare avec ces vins-là, mais les autres, mais ils disparaissent. Et là, évidemment, personne ne veut se remettre en cause soi. Donc on attaque la Bourgogne en disant « Ouais, non mais les Bourgognes, ils ont complètement pété les plombs, et puis en plus ça ne se conserve plus. » Non mais c'est insupportable comme discours. Il y a aujourd'hui des vins en Bourgogne qui se conservent beaucoup mieux que dans les années 70 parce qu'on a commencé vraiment la déconnade avec la chimie dans les sols dans les années 70 et aujourd'hui il y a des très grands vins qui sont faits mais moi j'ai un Bourgogne rouge dans mon magasin à 17,50 qui est une petite perle. Les gens ils n'en reviennent pas, ils disent mais à 17,50 un Bourgogne rouge de cette qualité, mais ça existe.
Ouais.
Et on a plein de vins dans les 30-40 euros qui sont exceptionnels. Donc Il faut vraiment choisir son caviste.
Je l'ai celui à 17,50. Tiens, je vais,
ah ouais, c'est une petite
je
bombe.
Je vais passer de voir.
Voilà, c'est une petite bombe.
Bon, il y a des écrans, hein, tu as vu un petit peu le progrès. Oui. Ils sont beaux ces studios, ils te plaisent.
C'est impressionnant.
Depuis le temps,
hein. C'est impressionnant.
Alors là, c'est une lumière rouge qui t'arrive en pleine figure.
Ouais, ouais.
J'ai déjà des problèmes.
Il y a même de l'orange, il y a rouge-orange, là c'est violent. Hein, voilà.
Il ne reste plus que 30 secondes.
Bon, ben écoute, bonne soif et bon abreuvage de la soif, et surtout la soif de l'esprit, pas la soif du corps. La soif du corps, c'est l'eau. La soif de l'esprit, c'est le vin. Il ne faut jamais oublier ça.
Absolument. C'était un bonheur, un pur bonheur de t'avoir parmi nous aujourd'hui,
bon, moi aussi.
Bruno. Bah écoute, on passera peut-être une partie de l'été ensemble, on va voir si on peut pas faire un ou deux enregistrements.
Ça, eh ben, ça serait pas mal, voilà.
Ça sera super. Merci Bruno Queniou, Philovino, merci de votre écoute, chers auditeurs. Nous étions dans le Florilège des Arts sur Radio Courtoisie. À très bientôt.
Vous venez d'entendre le Florilège des Arts dirigé par Nicolas Stocker, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, vendredi 10 juillet 2026 de 10h à 11h et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.